Radio Stable.
Morning Edition from NPR.
France Inter, le 18-20.
Ça, c'est le robot qui descend au fond de l'eau. Il a des bras articulés. Comme ça, nous pouvons prélever des échantillons d'eau et des spécimens.
C'est dans un récif corallien que nous descendons, comme vous venez de l'entendre, que vous connaissez sans doute peu ou pas du tout, au large du Brésil et de la Guyane, avec Greenpeace. C'est l'escale reportage d'un jour dans le monde. Un récif corallien en danger à cause de forages pétroliers. Nous serons avec Anne-Laure Barral, sous les radars, et Florence Paracolos, avec des femmes en moto au Pakistan, avec toute la délicatesse du gouverneur adjoint de la Banque d'Angleterre et des mouettes voleuses en Australie. 18h50, le cinéma en VO à Cannes, avec Eva Bétan, un film chinois, et le Spike Lee aussi, dont on discute beaucoup sur la croisette. 18h55, le monde à l'envers de Jean-Marc Four, un pas en avant, deux pas en arrière. Alors que l'Afrique bouge, fraye de plus en plus son chemin vers la démocratie, le Burundi nous prouve qu'on peut aussi reculer de 10 cases avec un seul homme. Mais avant, on essaye de comprendre comment l'Italie essaye de se gouverner avec l'Europe ou contre elle, et on n'y est pas encore. Le monde est vaste, on n'a qu'une heure, bonsoir.
Fabienne Saint-Ès. Un jour dans le monde.
C'est donc un peu l'accord de gouvernement qui nous a tous laissé les yeux un peu écarquillés, plutôt dubitatifs. Et ce côté dubitatif se confirme effectivement quelques jours plus tard. Mouvement 5 étoiles et Ligue, deux formations anti-système, l'une plutôt à l'extrême gauche, l'autre plutôt à l'extrême droite, pour résumer les choses un peu succinctement. L'accord n'est pas achevé, c'est même par là qu'on va commencer. Bonsoir Pascale Johannin.
Bonsoir.
Vous êtes directrice générale de la Fondation Robert Schuman, et bonsoir Giuliano D'Ampoli.
Vous êtes bonsoir.
Ancien conseiller politique de Matteo Renzi, président du think tank Volta, qui est à Milan. Avant de se parler, d'essayer de comprendre, je voudrais juste qu'on aille faire un aller-retour rapide à Rome pour comprendre où on en est, parce que parfois on a un peu de mal à suivre, et puis que la journée a été assez dense en rebondissements divers et variés. Mathilde Imberti, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Correspondante de France Inter à Rome. Mathilde, fumée blanche ce soir, ou pas encore apparemment?
Bah écoutez, pas encore, mais c'est une question d'heure au pluriel, vient d'annoncer sur les réseaux sociaux Luigi Di Maio, le leader des 5 étoiles. Il rencontrera dans la soirée son homologue de la Ligue, Matteo Salvini. Selon l'agence ANSA, l'agence italienne de presse, citant des sources 5 étoiles, les deux parties ont bouclé le programme. Le blocage porte désormais sur le nom du président du Conseil, le futur Premier ministre italien. Par ailleurs, aujourd'hui, la Ligue a fait monter les enchères. Elle réclame le ministère de l'Intérieur dans le futur gouvernement, pour avoir les mains libres sur la question migratoire et reprendre le contrôle des frontières italiennes, a déclaré Matteo Salvini à la mi-journée. Le leader d'extrême droite a également réagi aux craintes exprimées par l'Europe, par les marchés financiers et par une partie de la presse internationale. Le Financial Times a écrit par exemple qu'avec ce gouvernement, les barbares entreraient à Rome. Eh bien, Matteo Salvini réplique que les barbares valent mieux que des esclaves, référence à cette Europe que la Ligue juge trop contraignante pour les affaires de l'Italie. On est là ce soir, Fabienne, déclaration donc optimiste de la part des deux leaders Ligue et 5 étoiles en vue de la formation d'un gouvernement, mais toujours pas d'exécutif.
Merci beaucoup Mathilde Imberti. Alors optimiste, ça dépend un peu de quel point de vue on se place, mais voilà où on en est ce soir. Giuliano D'Ampoli, je regardais ce que vous disiez, vous, il y a quelques jours, peut-être juste après les élections, à propos de cette alliance. Vous disiez, à la limite, je souhaiterais que ça se fasse pour crever l'abcès, ce serait une catastrophe, mais au moins, on aurait soldé cette expérience. Est-ce que vous rediriez ça aujourd'hui? Allons-y, après tout, dans cette drôle d'alliance entre extrême droite et extrême gauche.
Oui, c'est-à-dire, je pense que c'est effectivement une alliance catastrophique pour l'Italie, et d'ailleurs l'esquisse de programme commun sur lequel ils sont en train de négocier, qui a fuité, le prouve, parce que c'est effectivement un programme très, 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 très radical, très anti-européen. Mais en même temps, c'est l'alliance la plus naturelle qui est sortie du vote du 4 mars. Ces deux partis ont beaucoup de choses en commun, notamment justement un agenda assez ouvertement anti-européen et souverainiste. Et donc, c'est probablement, vu que nous sommes en démocratie, c'est probablement la seule façon de respecter la volonté des électeurs, et en même temps de ne pas accepter une solution qui, à mon avis, aurait été plus dangereuse sur le long terme, c'est-à-dire c'est-à-dire d'imaginer qu'on ait en Italie un système bipolaire entièrement populiste, avec un pôle populiste de droite d'un côté et un pôle populiste de gauche de l'autre. Alors ça, c'est ce qui se serait produit si, par exemple, le Parti démocrate s'était allié avec le mouvement 5 étoiles, ou si la droite avait pris le gouvernement tout seul.
Il n'en a jamais été question, d'ailleurs.
Et à mon avis, il en a été question pendant quelques jours. Et ça, à mon avis, sur le long terme, ça aurait été pire pour l'Italie.
Mais ça tient sur le long terme. Si vous dites que différemment, ça aurait été pire, est-ce que c'est parce que vous vous dites de toute façon, ça tiendra jamais? Ils se mettront pas d'accord.
Non, je pense. Là, jusqu'il y a quelques jours, effectivement, j'avais l'impression que ils auraient pu ne pas se mettre d'accord. Là, quand même, tous les signaux que nous avons nous disent qu'un accord se fera et qu'un gouvernement se fera. Après, on est en Italie, donc il y a un degré d'imprévisibilité toujours, mais c'est quand même le plus probable. Tiendra. Oui, il tiendra quand même quelques temps, parce qu'il a une majorité parlementaire qui n'est pas très, très solide, mais qui est quand même assez solide. Donc, il va pouvoir réaliser une petite partie de son programme. Après, en Italie, on est toujours dans un système proportionnel et parlementaire. Donc, un gouvernement qui va dans le mur, c'est un gouvernement qui ne résiste pas indéfiniment. Hein, c'est pas les 4 ans de Trump.
Pascal Johannin, quand on regarde cette ébauche de programme qui est sortie aujourd'hui, alors dont on dit que tout n'est pas clair, etc., on est d'accord. Mais enfin, les grandes lignes, elles sont finalement assez conformes à ce qui avait été annoncé. Donc, on parle de sortie de l'euro, on parle de renégociation des traités européens, on parle de l'annulation de la dette ou partie. Est-ce que quand on est la troisième économie de la zone euro, quand même, qu'on est l'Italie, avec ce genre de programme, on peut mettre la zone euro en danger, l'Europe en danger?
On peut en effet mettre la zone en danger. C'est bien simple, je ne suis pas sûre que la sortie de l'euro se fasse, parce que je crois que les deux parties...
C'est compliqué entre deux là-dessus.
On remis un peu de dos dans leur vin et ne sont plus tout à fait d'accord. D'abord parce qu'il y a une conséquence immédiate. Le retour à la lire, c'est l'effondrement de l'économie italienne. Ça, c'est clair. Et donc, ça serait pour l'Italie et pour les électeurs qui souffrent, qui ont peut-être voté pour ces deux partis, dramatique, parce que ça voudrait dire que les dirigeants de ces partis font reculer encore l'Italie. Tout ça, c'est des grands principes qui sont très, très, très généreux, très sympathiques, mais qui ne résistent pas à la réalité. La renégociation de la dette, ça se décline pas unilatéralement. La sortie de l'euro, donc, je crois que ce qui était écrit dans le programme qui a été diffusé dans la presse italienne, les dirigeants auraient dit que ce n'était finalement qu'une version ancienne et que depuis, ils ne voulaient pas sortir de l'euro. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont peu européens. Même franchement anti-européen,
comme vous dites,
puisque
peu européen, c'est le moins
puisque Salvini siège avec le Front National.
En tout cas, peu européen de cette Europe-là, on va dire, pour dire les choses.
Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est que tous ces grands principes qu'ils ont mis en place pendant les élections, il va falloir qu'ils le confrontent à la réalité. Alors, à la réalité de l'Union européenne, ils sont un parmi 27, donc on négocie pas tout seul contre les autres. Il faut aller chercher. Et puis, il y a des règles qu'on a acceptées. L'Italie est en effet un État fondateur et puis un troisième économie de la zone euro, avec des problèmes économiques certains, même s'il y a des choses qui vont bien. Donc, la réalité de ce truc, c'est que la réalité de ce gouvernement, c'est qu'il va peut-être être confronté à l'épreuve du pouvoir, et cette épreuve du pouvoir va peut-être les confronter à une réalité qu'il niait ou qu'il voulait résorber, pensant le résorber facilement.
Mais est-ce qu'on n'est pas dans une espèce de configuration qui ressemble plus à ce qu'était la Grèce à un moment que à ce qu'a été le Royaume-Uni au moment du Brexit, par exemple? Est-ce que c'est pas plutôt par là qu'il faut aller chercher les comparaisons, avec le même ras-le-bol finalement vis-à-vis de l'Europe, avec le même sentiment d'abandon vis-à-vis de l'Europe? Est-ce que c'est pas plutôt par là qu'il faut aller chercher les comparaisons, Giuliano D'Ampoli?
Je crois qu'il y a quelques éléments de comparaison, notamment dans une alliance quand même très hybride et très, 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 très bizarre qui est en train de se constituer. Mais fort heureusement, la situation de l'économie italienne est quand même très loin de celle de la Grèce.
Où était la Grèce à ce moment-là?
Donc, franchement, je pense que nous sommes quand même très loin d'un scénario grec pour le futur aussi.
Mais dans la vision que les Italiens peuvent avoir de l'Europe, dans leur dans leur détestation de l'Europe, ou au final, est-ce que c'est l'Europe qui prend, je vais le dire comme ça, mais que la détestation est plus vers la classe politique italienne, finalement, et que donc l'Europe est moins en danger qu'on pourrait bien le dire?
Je suis pas sûre qu'en effet les Italiens sont anti-européens. Je pense que ces partis ont reçu les voix qu'ils ont obtenues pour deux, trois raisons. Il y a une situation économique qui est peut-être difficile encore en Italie, la crise et la situation dans le sud notamment de l'Italie est peut-être moins prospère que dans le nord. Il y a la question migratoire. Je pense que la question migratoire, Lampedusa, etc., où on a laissé, il faut bien le dire, l'Italie un peu toute seule, comme on a laissé la Grèce avant, mais la Grèce était déjà dans le gouvernement de Tsipras quand il y a eu la crise des
réfugiés. Le levier de l'alliance.
En tout cas, l'immigration, et c'est un vrai sujet sur lequel, en effet, on voit qu'ils ont une volonté de faire des choses, mais c'est pareil, là, sur l'immigration, ils ne pourront pas tout changer tout seuls. Hein. Et puis, je crois, un déclin des partis, que ce soit le Partito Democratico ou de la Forza Italia, qui ont fait des scores les plus faibles, je pense, de leur histoire, avec en effet une volonté de faire tabula rasa en essayant de mettre en place de nouveaux partis qui n'étaient pas comme les autres.
Giuliano D'Ampoli, c'est plutôt la classe politique italienne qu'on vise là en ce moment en Italie, plus que l'Europe finalement, vous le pensez aussi ?
Oui, si vous regardez le sentiment des Italiens par rapport à l'Europe, c'est intéressant parce qu'il y a un niveau de rejet de l'Europe qui effectivement dans les sondages est assez proche des niveaux anglais d'avant Brexit où si on demande aux Italiens est-ce qu'on serait mieux en dehors de l'Europe, il y a une majorité qui dit oui, mais après, au contraire de ce qui se passe en Angleterre, si on demande aux Italiens est-ce que vous voudriez que plus de décisions soit prise au niveau européen, on répond, ils sont aussi parmi les peuples, les populations italiennes et européennes qui désirent qu'il y ait plus d'intégration européenne. Donc c'est vrai que c'est un sentiment quand même assez contradictoire sous plusieurs aspects. Le facteur dominant reste, mais c'est un peu la dominante du vote italien depuis 20 ans, depuis les affaires de Manipulite, les affaires judiciaires du début des années 90. C'est effectivement un rejet de la classe politique, ce que vous appelez ici en France le dégagisme, qui est extraordinairement fort et qui est resté un des moteurs principaux du vote.
Est-ce qu'on trouve des choses en commun avec les autres formes de populisme, quelles qu'elles soient, qu'on a pu voir éclore en Europe, où il y a quelque chose de spécifiquement très italien, ou peut-être une incarnation d'un leadership fort, des réponses simplistes à un certain nombre de choses? Est-ce qu'on voit quand même des choses communes dans ce populisme à l'italienne par rapport aux voisins, ou au contraire, c'est quelque chose de très particulier?
Alors,
finalement,
le mouvement 5 étoiles, je ne sais pas le classer ailleurs qu'en Italie, parce que d'abord, il se veut nuit à droite. Ni à gauche, ni nulle part, un peu tout seul sur une planète. Il a quand même fait 32% des voix, ce qui est quand même le premier parti italien.
Un tiers des
aujourd'hui.
Votes, c'est énorme.
Voilà. Salvini, il fait partie d'une forme d'extrême droite. Il siège au Parlement européen avec le Front National, avec le Parti de la Liberté néerlandais, avec ceux qui sont dans la coalition autrichienne du Parti de la Liberté aussi, en Autriche. Donc, c'est une extrême droite qui est anti-migratoire, qui est un mouvement qu'on connaît un peu dans d'autres pays.
Et qui réclame l'intérieur aujourd'hui,
mais
qui réclame le contrôle aux frontières.
Autant, c'est pour ça qu'on
va reparler de Dublin, par exemple, qui visiblement ne pose pas de problème que à l'Italie. Est-ce qu'on est prêt à reparler de Dublin ou pas en Europe? Faut-il le faire?
On est prêt à parler de beaucoup de choses concernant la migration, mais on le fera ensemble. Dublin, ça, c'est un problème, mais qui n'est pas le seul. Il faut pas mettre Dublin. Et puis, c'est comme les gens qui disent Schengen. Il faut réfléchir à un plus large niveau parce qu'il y a des implications. Et c'est vrai qu'on peut plus, en tout cas, compte tenu des deux pays qui sont le plus visés par les réfugiés, les laisser seuls à se débrouiller avec la première entrée, comme on dit, parce que on est tous concernés après. Donc, je crois qu'il va falloir en effet qu'on fasse une vraie politique migratoire au niveau européen, c'est demandé par les citoyens en plus. Et ça, c'est la réponse qu'on aura dans le cadre du prochain budget, parce que là, il ne faut pas se leurrer la face, il n'y a pas de budget en matière Union européenne, parce qu'il faut qu'on apporte une réponse commune, parce qu'on ne veut pas en effet...
Ce qu'on attend, enfin, tout ça, vous avez raison sur le principe, Pascal Joannin, mais c'est typiquement ce sur quoi l'Europe a échoué depuis ces deux dernières années. Enfin, on ne sait pas se mettre d'accord.
Non, mais parce qu'on a mis en place quelque chose qui était un système de répartition de quotas, de recalcalisation, etc. Là, maintenant, maintenant, on est plus sur la volonté de faire des... Regardez ce qui va se... Enfin, ça a été annoncé aujourd'hui, donc je vais pas vous le... Mm-hmm. Il y a en effet vraiment des plans sur les migrations. Et surtout, la migration, ça veut dire surtout des aides avec les pays qui sont les pays d'origine des migrants.
Giuliano D'Ampolichi, pour prendre la tête de ce... De cet attelage, de cet alliage.
Ça c'est la question.
À 1000 euros.
C'est la question à 1000 euros, parce que en Italie, en effet, on a une classe de personnes qui sont des professeurs, qui sont des hauts fonctionnaires, etc., qu'on appelle la réserve de la République et qui, traditionnellement, accède au pouvoir et devient notamment Premier ministre quand il y a une situation de blocage politique ou justement plusieurs partis qui aucun desquels n'est dominant. Mais dans ce cas-ci, cette alliance tellement nouvelle, mm-hmm. disons, et tellement hétérogène, enfin par rapport à ce que nous avons connu jusque-là, il ne peut pas raisonnablement puiser dans cette réserve-là. Et donc il faut qu'il trouve un profil différent. Donc, soit ce sera, de façon plus traditionnelle, un représentant d'un des deux partis, mm-hmm. avec une sorte d'accord pour lequel l'un gouvernerait deux ans,
roulement,
et puis, il y aurait un relais entre les deux.
En alternance,
pourquoi pas,
Soit ils vont devoir trouver, effectivement, quelqu'un qui incarne ce projet de rupture et anti-élite, anti-establishment, anti-Europe et tout ça. Et là, ça va être, il y a des noms qui ont circulé en Italie dans les derniers jours, mais ça risque d'être des profils assez inattendus.
Parce que c'est quoi justement les profils quand on accepte de mettre les pieds dans ce marigot, pardon, parce que c'est comme ça que ça veut dire.
Justement,
c'est quoi
les noms qui ont circulé pour l'instant. Il y a eu un professeur, un économiste très alternatif, qui dont le nom a circulé pendant une demi-journée hier et qui aurait été contacté par les deux leaders pour éventuellement occuper ce poste. Après, il a parlé trop tôt avec les journalistes et donc l'hypothèse est déjà retombée d'elle-même. Mais c'est ce que l'on entend, c'est effectivement qu'ils sont à la recherche de profils assez particuliers. Après, est-ce que le président de la République, qui joue quand même un rôle important
et qui a déjà
dans la formation
dit qu'il
du gouvernement,
c'est lui qui nomme. Hein, donc
c'est lui qui nomme.
Donc il faudra quand même qu'il soit une personnalité.
Il va quand même falloir quelqu'un qui passe au moins à un niveau minimum le contrôle du président de la République.
Voilà, qui fasse quand même un peu sérieux. En tout cas, on a entendu tout à l'heure Mathilde nous dire que c'était une question d'heure. Maintenant, le problème en Italie, c'est que les heures peuvent être longues.
Oui, les heures peuvent être longues.
Voilà.
Donc, en tout cas, le président de la République peut avoir en effet un rôle, non seulement sur la nomination du président du Conseil, mais également sur les mesures qui coûteraient très cher au budget européen. Et donc, il jouera tout ce que la Constitution lui permet. C'est pas un président comme on le connaît en France, mais il essaiera de jouer ça. Et puis, le dernier petit point.
Rapidement, s'il vous plaît, Pascal Jeannin, vraiment.
Quand on regarde en effet comment ça se passait en Grèce, finalement Tsipras, on a eu tous peur de Tsipras quand il est arrivé au pouvoir en disant c'est extrême gauche, lui pour le coup. Ouais. Finalement, on s'en est très bien accommodé et lui s'est aussi accommodé.
Les
aussi
Grecs moins quand même. Peut-être que les Grecs se sont moins accommodés de la crise qui a été.
On verra quand les prochaines élections arriveront.
Merci beaucoup, merci à tous de votre présence dans Un jour dans le monde.
France Inter, Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
La suite sur un récif corallien au large du Brésil jusqu'en Guyane, menacé par les forages pétroliers, sous les radars en moto au Pakistan et avec des mouettes pas sympas à Perth en Australie. Le cinéma en VO et à Cannes, c'est avec Eva Bétan qui a vu notamment le dernier Spike Lee et puis Le Monde à l'envers. Jean-Marc Four, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Avec le Burundi qui fait reculer l'Afrique à lui tout seul.
Oui, vous vous souvenez d'Amin Dada et de Bokassa dans les années 70, et bien voici Pierre Kourounziza au Burundi et... C'est inquiétant.
Et c'est même pire. Allez, le tour du monde n'est pas fini. Nous fait faire un détour par les États-Unis. Father Jones Misty, Mr. Tillerman.
See you again. There's a few outstanding charges. Just before we check you in, let's see here. You left your passport in the mini fridge and a message with
the disses. Here the picture isn't his and oh just a reminder about our policy. Don't leave your mattress in the rain. You sleep on the balcony, okay, did you and your guests have a pleasant stay? What a beautiful tattoo that young man had on his face. And oh, will you need a driver out to Philly? Jason Isbell's here as well, and he seemed a little worried about you. I'm feeling good, damn, I'm feeling so fine. I'm living on a cloud above an island in my mind. Oh, baby, don't be alone.
Father John Misty sur France Inter, Mr. Tillerman, Sous les radars et Florence Paracuello, c'est tout de suite.
France Inter.
Good evening and welcome.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Vous nous emmenez d'abord à Lahore, au Pakistan, où l'émancipation des femmes passe par la moto.
Est-ce que vous entendez là? C'est un cortège de 3000 motardes dans les rues de Lahore, campés sur des engins rose bonbons offerts par le gouvernement du Pendjab, qui leur a aussi payé des cours de conduite. Alors au-delà de la couleur des motos, ce qui est inédit dans ces images de l'AFP, c'est de voir des femmes conduire. Ça ne se fait pas au Pakistan, ce sont les hommes qui conduisent les motos. Les femmes, normalement, sont les passagères assises en Amazon à l'arrière, dépendantes de ces messieurs pour se déplacer, ce qui laisse 75% des femmes à l'écart du marché du travail au Pakistan, faute de mobilité. C'est pour ça que les autorités du Pendjab ont lancé l'opération Women on Wheels, des femmes qui roulent, et c'est une libération pour ces toutes premières motards dont l'entend dans la voix de Nagina, casque rose sur la tête.
Je
suis tellement contente de conduire une moto. C'est ma première expérience sur la route. On est libre maintenant. On fait ce qu'on veut. On ne dépend plus de personne. Et voilà, on entend le sourire de cette femme. Elles seront 10 000 comme elle à la fin du programme, libres et bien visibles sur leur moto rose. La liberté à moto, je suis sûre que ça vous parle, Fabienne Saint-Esse.
Absolument, je sais ce que ça veut dire. Est-ce la dit au Pakistan? Jamais j'oserais. Comment se mettre à dos les femmes et les plus de 50 ans avec un seul mot?
Ben, en faisant pas attention à ce qu'on dit, hein, et en utilisant une métaphore bien malvenue pour parler d'économie. Le gouverneur adjoint de la Banque d'Angleterre en a fait les frais aujourd'hui après une interview parue ce matin dans le Télégraphe où il compare l'état de l'économie britannique à la ménopause. L'économie est dans une période critique, dit-il, qu'on n'a plus connue depuis l'ère victorienne, soit, avec un ralentissement soudain et un arrêt de la productivité. Bon, c'est comme la ménopause, mais ça peut s'appliquer aux deux genres. Hein. Ça veut dire que vous avez passé votre pic de productivité. C'est fin, c'est classe. Mm-hmm. Peut-être se parle-t-il à lui-même, ce monsieur qui a 53 ans. Il s'est pris depuis ce matin des tombereaux d'injures et de critiques, évidemment. Les plus polis faisant simplement remarquer que ça n'est pas parce qu'on est ménopausé qu'on est moins productif. Il a dû présenter ses excuses, son avenir tout tracé de gouverneur en chef de la Banque d'Angleterre est peut-être compromis. Il y a des mots comme ça qu'on regrette d'avoir prononcé toute sa vie.
Et voilà. Et puis Florence, attention aux mouettes qui pourraient nous piquer nos frites.
Des mouettes qui ont faim pendant que vous mangez à proximité, ça peut être un problème. Les mouettes, c'est vorace. Écoutez, quelqu'un va leur jeter un bout de pain. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait, Fabienne, quand
on
tient
bien la scène.
Un restaurant de bord de mer à Perth, par exemple, en Australie, et qu'on n'arrive pas à empêcher les mouettes de s'attaquer aux assiettes des clients, surtout aux enfants, les pauvres, qui se font systématiquement piquer leur déjeuner. La pizzeria Three Sheets a tout essayé, des leurres, des fausses chouettes, des barrages magnétiques, ne me demandez pas comment ça marche, je ne sais pas, rien n'a marché en tout cas. Alors, pourquoi dans des barrages magnétiques, effectivement, peut-être des ondes qui empêchent les oiseaux de passer.
Je sais pas, deux oiseaux de pôle, de même pôle. Boum, qui
s'écarte. Alors, pourquoi ne pas en jouer et proposer à ses clients de se défouler contre les oiseaux? Le patron du restaurant a investi dans de gros pistolets à eau. Il y en a un sur chaque table et vous êtes invités à asperger la mouette qui viendra vous importuner. Les clients adorent, paraît-il. Surtout les mecs, raconte le patron du restaurant à ABC. Ils commandent un repas, une bière et ils tirent. Ils sont tout de suite dans l'esprit du resto. Avis aux collègues de Saint-Malo, par exemple.
Voilà. Un burger, une bière et un pistolet à eau, je vous prie.
Voilà.
Merci, c'est pour emporter. Florence Paracuello, à demain.
France Inter.
Doha, Harare,
Jérusalem,
Pékin, le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul,
Washington,
São Paulo,
Beyrouth,
France Inter.
Eh ben, on reprend la mer, tiens. C'est au large du Brésil que nous emmène l'escale reportage d'Un jour dans le monde, au large du Brésil, avec Greenpeace, qui pendant 5 semaines a sillonné le côté nord du pays jusqu'en Guyane pour inspecter, pour regarder, pour étudier, pour comprendre un immense récif corallien, peu connu, mais déjà en danger à cause de plusieurs projets de forage pétrolier. Bonsoir Anne-Laure Barral.
Bonsoir.
Vous avez rencontré l'expédition Greenpeace en Guyane et on va comprendre ensemble à la fois ce qu'ils ont vu, puis ce qu'ils craignent aussi.
Oui, dans le port autonome de Cayenne, on peut dire que le bateau arc-en-ciel de Greenpeace, l'Esperanza, a fait plutôt son effet hein, au milieu des sombres portes-containers. À bord, une trentaine de personnes reviennent d'une aventure en mer entre le delta du fleuve Amazone et les côtes guyanaises. Il y a les membres d'équipage, les militants, mais aussi des scientifiques français et brésiliens.
Ça, c'est le robot qui descend au fond de l'eau. Il a des bras articulés. Comme ça, nous pouvons prélever des échantillons d'eau et des spécimens.
Gisèle Duarte Garcia travaille au laboratoire de microbiologie de l'Université fédérale de Rio. Elle a hâte d'analyser ses prélèvements et elle voit déjà l'étendue des recherches à mener.
And in the 70s and 80s, places like forest as
Et dans les années 70 et 80, la forêt était la principale zone de recherche pour trouver de nouvelles substances utiles aux hommes. Et maintenant, nous savons que c'est l'environnement marin qui est le plus riche pour mener des recherches en santé notamment.
Try to get some interesting substances to human health.
Comment la vie peut-elle se développer avec si peu de lumière, dans un mélange d'eau douce et d'eau salée, juste à la limite du plateau continental par 180 mètres de fond? C'est toutes ces questions que les scientifiques auxquelles ils voudraient répondre aujourd'hui.
D'autant, Anne-Laure, que ce récif n'était pas connu jusqu'à présent.
Non, dans les années 70, les géographes supposent sa présence, mais c'est à peine il y a 2 ans que les premières plongées scientifiques reconnaissent l'existence de ce biome, cet écosystème particulier. Sa taille est alors estimée à 9000 km², mais l'expédition de Greenpeace prouve qu'il est beaucoup plus grand, jusqu'à 50 000 km². Pour Serge Plane, le directeur de recherche au CNRS sur les récifs coralliens, c'est une découverte majeure.
Au moment où on est juste dans la phase où on découvre un nouvel écosystème, comme si on arrivait en Antarctique et qu'on plonge et qu'on découvre effectivement une nouvelle faune que l'on ne connaît pas, que l'on ne connaissait pas, qui n'a pas été vraiment étudiée. Et donc on est dans une phase maintenant qui est la phase 2, c'est on a découvert cet écosystème, maintenant il faut aller vraiment l'étudier, je dirais, en profondeur, savoir finalement quelle est l'origine biogéographique de ces espèces que l'on trouve ici. Est-ce que ce sont des espèces, oui, qui sont exactement les mêmes et que l'on va retrouver dans la zone Caraïbe ou aussi bien dans la zone plus sud au Brésil? Ou est-ce que non, on a des espèces qui ont été isolées à un moment donné et qu'on ne va les trouver qu'ici?
Alors, il ne faut pas imaginer une nouvelle grande barrière de corail visible depuis la Lune, mais plutôt une chaîne de massifs coralliens. Ce n'est pas pour autant que la découverte de nouvelles espèces n'est pas envisageable. Avec elle, des progrès énormes pour la science. Vous savez ce qu'on dit, on connaît mieux la surface de la Lune que le fond des océans.
Alors, mais si Greenpeace, Anne-Laure, a voulu mener cette campagne, c'est aussi pour contrer plusieurs projets de forage pétrolier.
Oui, notamment ceux de Total, qui à la fois au Brésil et au large de la Guyane a déposé des demandes d'autorisation de forage pour chercher du pétrole dans cette zone très productive. L'entreprise attend d'ailleurs l'avis de la puissante agence environnementale brésilienne, l'IBAMA, qui lui a déjà demandé de revoir sa copie une fois. En plus, elle a déposé hier auprès de la préfecture de Guyane une autre demande. Mais pour François Chartier, chargé de campagne Océan à Greenpeace, l'expédition de l'ONG remet en cause ses projets pétroliers.
Alors c'est vrai qu'on est dans une situation très très semblable, déjà c'est le même acteur économique, on parle dans les deux cas de forage ultra profond, ce qui augmente le risque environnemental. Bah, aujourd'hui, l'étude d'enquête ici n'a pas commencé, donc ce qu'on demande c'est que tous les éléments qu'on a ramenés de notre expédition soient pleinement intégrés pour juger la possibilité et les impacts et risques potentiels de l'activité pétrolière ici. Mais globalement, il faut que la France et le gouvernement soient cohérents. Ce qu'on demande, c'est de mettre la priorité à la protection, à la science, et de ne pas se précipiter à donner des autorisations pour l'exploration pétrolière à Total.
Et de son côté, Total rappelle qu'elle compte forer à plus de 2000 mètres de profondeur, bien plus bas que le récif, et que son premier puits serait à 34 km des découvertes de Greenpeace. Mais comment les pétroliers peuvent-elles dire les impacts de leurs activités sur un écosystème que l'on connaît à peine? Voilà un peu la question que soulève l'ONG aujourd'hui auprès des autorités brésiliennes et françaises, dont les réponses sont attendues dans les prochaines semaines.
Voilà, question que vous avez soulevée pour nous dans Un jour dans le monde, Anne Lambaral. Merci beaucoup. Voici Cybelle, Underneath the Mango Tree.
Underneath the mango tree, honey, honey, don't watch for the moon. Underneath the mango tree, me, honey, honey, may pull out of soon. Underneath the moonlit sky, me, honey, and I can see hand in hand. Underneath the moonlit sky, me, honey, and I can make fairyland. Mango, banana, and tangerine, sugar, and my dear cocoa bean. When we get married, we'll make them grow, and my little child in a plan very soon. Underneath the moonlit sky, me, honey, and I can sit hand in hand. Underneath the moonlit sky, me, honey, and I can make fairyland. Mango, banana, and tangerine, sugar, maki, a cocoa bean. When we get married, we'll make them child in a room. Underneath the mango tree, me, honey, and me, come watch for the moon. Underneath the mango tree, me, honey, and me, make boogaloo soon. Underneath the mango tree, underneath the mango tree, underneath the mango tree.
Ben voilà, donc pile sous l'arbre à mangue, sous le manguier, avec Cybelle sur France Inter. Eva Bétan nous attend, elle est à Cannes.
3, 2, 1,
France Inter.
Movies are made of light.
Le 18-20.
Appelons ensemble votre jury.
And the winner is...
Un jour dans le monde.
Action!
Le cinéma en VO, comme chaque mercredi dans Un jour dans le monde. Et sur la croisette, bien sûr, aujourd'hui. Bonsoir Eva Bétan.
Bonsoir.
Eva, 9 jours de Festival de Cannes et vous tenez toujours debout, bravo. Oui. Vous avez vu le monde entier défiler sur écran. Je voudrais qu'on s'arrête sur deux films aujourd'hui, deux pays, deux choses. D'abord la Chine d'aujourd'hui, en plein mouvement. Un très grand cinéaste qui s'appelle Jia Zhangke, que je prononce probablement n'importe comment, Eva.
Jia Zhangke,
ah,
oui.
Ah bah Jia Zhangke, j'y étais presque. Ça s'appelle Les Éternels, une histoire d'amour sur 20 ans, mais pas seulement, Eva.
Oui, et la durée est un élément capital. Ce film, c'est en quelque sorte la synthèse du travail que Jia Zhangke fait depuis justement une vingtaine d'années. Il y a un film très marquant qui date de 2006 qui s'appelle Still Life. Son histoire se déroulait sur le site des barrages, du barrage des Trois Gorges, des villages entiers allaient être engloutis. Aujourd'hui, ces paysages n'existent plus, mais on va les voir dans ce film-ci, puisque son histoire d'amour, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est amoureuse d'un caïd, ils vont être séparés, elle va le rechercher à travers la Chine. Et donc, dans son histoire, il utilise des images de l'époque, donc on voit ce qui n'existe plus, et il y a une prouesse technique, parce que c'est fait de telle manière que vous ne vous rendez pas compte que ce sont des images anciennes. Il avait montré les changements physiques, je dirais, de la Chine. Mm-hmm. Là, il nous montre en quelque sorte les changements moraux, les changements intimes. C'est un monde plus froid, plus connecté, plus matérialiste, Jia Zhangke.
Les 20 ans retracés par mon film représentent aussi mes 20 dernières années. Pour moi, ces changements de ces 20 dernières années étaient assez destructeurs. Dans ce film, j'ai l'intention de réfléchir sur ce qu'on a perdu et ce qu'on a gagné en ces 20 dernières années. Nous avons vécu dans une totale incertitude. Quand on regarde ce qu'on a traversé, on ne trouve pas une constance dans cette évolution. Nous avons perdu le repère. Et du coup, on se sent seul et faible.
Alors d'habitude, quand il est question de pègre, on a des archétypes dans la tête. La pègre dont il parle n'a rien à voir avec la mafia italienne, par exemple. Il se réfère à quelque chose de plus ancien, à des sortes de traditions pluricentenaires, qui est que la pègre peut être dépositaire de certaines valeurs. Écoutez-le.
En Chine, historiquement, Tianhu, donc c'est le terme en chinois de la pègre, s'oppose au système de pouvoir officiel et centralisé. Il y a deux valeurs fondamentales. La première, c'est la loyauté, et la seconde, c'est la droiture. Et chose, ce qu'on a perdu, ce sont ces valeurs millénaires, ces 20 dernières années.
Voilà, il va Yazanke, ça s'appelle Les Éternels. On change complètement de continent, on change de culture. Nous partons pour les États-Unis avec le fameux film de Spike Lee, très attendu, réalisateur noir américain évidemment, qu'on a connu très engagé. Là, on parle du Ku Klux Klan. Le film s'appelle Black Klansman avec 3K à Black.
Avec 3K. Alors, on l'a connu effectivement très engagé. Ça ne veut pas dire qu'il est devenu un agneau, mais il n'est plus dans des films aussi radicaux dans le militantisme. Il part d'une histoire qui est extraordinaire, vrai et rocambolesque, et donc il se délecte de la raconter. C'est à la fin des années 70, un policier noir arrive à infiltrer le Ku Klux Klan local de Colorado Springs. Alors c'est comme une arnaque en quelque sorte de poker, où à deux, un blanc, un noir, ils arrivent à les gruger et à les infiltrer. Mais en même temps, donc, il va jouer complètement de l'effet de miroir avec aujourd'hui, il va mettre la salle de son côté, et il va terminer avec des images de Charlottesville, où un suprémaciste blanc fonce dans la foule délibérément en voiture, tuant une jeune femme, et Spike Lee ne mâche pas ses mots.
Nous avons des nazis, la droite dure, le Ku Klux Klan. Ce sont des groupes terroristes. Quand cet assassin a lancé sa voiture dans la foule, c'était un acte de terrorisme. Ce ne sont pas des gens venus du Moyen-Orient, il faut bien faire la distinction. C'est du terrorisme maison qui a grandi ici, avec des gens nourris à l'apple pie et au maïs de la haine.
Corn fed.
Hey.
America first.
America first.
America first.
Allez, Black Klansman, donc Eva, signé Spike Lee, qui sortira chez nous cet été au mois d'août. On y reviendra sans doute ensemble. Et puis très très vite, qu'est-ce que vous avez vu dans les films étrangers, Eva, qui mérite qu'on s'y arrête maintenant, même si effectivement on verra quand ils sortiront chez nous.
Très vite, alors, pas dans la compétition officielle, un film du Maroc, Sophia, sur le fait qu'avoir un enfant hors mariage est illégal au point que des hôpitaux refusent d'accoucher certaines femmes. Du Japon, ce dont je parle là va être en compétition et ça peut se trouver au palmarès. La délicatesse de Kore-eda, histoire de famille, critique en filigrane de la société japonaise. D'Italie, la subtilité d'Alice Rohrwacher, elle peint elle aussi les marges mais d'une manière poétique différemment. D'Iran, avec trois sous, un magnifique film féministe et lumineux de Jafar Panahi, malgré toutes les difficultés politiques qu'il a dans son pays.
Merci beaucoup, Eva Bétan, en direct de Cannes. Merci, Eva.
Merci.
Le 18-20, Fabienne Synthès, sur France Inter.
Et le monde à l'envers de Jean-Marc Four. Jean-Marc, direction ce soir la région des Grands Lacs. Donc nous sommes au cœur de l'Afrique, plus précisément dans le tout petit Burundi, où doit se dérouler demain un référendum constitutionnel plutôt préoccupant, alors que la démocratie progresse un peu partout en Afrique, là. Et c'est votre monde à l'envers ce soir. Voilà un grand, grand retour en arrière.
C'est même l'incarnation du contre-exemple. Demain, donc, un peu plus de 5 millions d'électeurs vont devoir y voter ego ou oya dans la langue principale du pays, le Kirundi, ça veut dire pour ou contre. Le premier problème, c'est que de nombreux Burundais ne savent pas précisément pour ou contre quoi. Dans ce petit pays de la taille de 3 départements français, seulement 5% de la population a accès à Internet. On est dans l'un des pays les plus pauvres du monde, espérance de vie 50 ans. Et vous savez quoi? Jusqu'à ces derniers jours, eh bien, le texte du référendum dans sa totalité, donc soumis au vote, était accessible uniquement sur la toile. Mmh. Alors quand on y accède finalement, voici ce qu'on y trouve. Le président, Pierre Nkurunziza, pourra rester en place jusqu'en 2034. Il dirigera le pays au nom de Dieu Tout-Puissant. Et les forces de sécurité deviendront une structure à part qui ne répondra qu'à lui. Bon, et puis de toute façon, vous avez intérêt à voter égaux, c'est-à-dire pour. Les opposants au texte n'ont eu aucun accès aux médias pendant la campagne. Ils n'ont pu organiser qu'un seul meeting dimanche dernier, et ce encore, c'était pas dans la capitale. Les radios étrangères, BBC, Voice of America, ont vu leur diffusion interrompue. Il est interdit de militer pour l'abstention, et les partisans du président passent à tabac tous ceux qui tiennent des propos critiques. Donc, autant dire que le résultat est connu d'avance.
Voilà, tout ça, ça fait vraiment dictature d'un autre âge.
C'est exactement ça. En fait, on se croirait revenu dans les années 70, époque des Bokassa et Amin Dada, qui, l'un en Centrafrique, l'autre en Ouganda, s'était autoproclamé chef de tout dans un délire mégalo et sanguinaire à la fois. Parce qu'attendez, il n'y a pas que le référendum. Je vais vous raconter trois anecdotes, elles sont révélatrices. Il y a deux mois, Pierre Kourounziza a été élevé par son parti au titre de Imboresa Yamako. Ça veut dire guide suprême éternel. Rien que ça, c'est un chrétien évangélique fervent. Il est présenté par sa femme qui est pasteur comme l'élu de Dieu. Toujours début mars, deuxième anecdote, il a fait renvoyer deux élus locaux. Vous ne devinerez jamais pourquoi.
Allez-y.
Ils avaient recruté deux footballeurs congolais qui ont osé le bousculer, lui le président, lors d'un match de foot. Parce que Pierre Kourounziza est fan de ballon rond, il joue dans sa propre équipe qui s'appelle l'Alléluia Football Club, ça ne s'invente pas. Et la règle absolue, c'est que c'est lui qui marque les buts. Voilà. Enfin, toujours au début de l'année, troisième anecdote, il a essayé de rapatrier au Burundi les cendres de l'ancien roi du pays. Elles sont en Suisse depuis les années 60. Il voulait les récupérer pour s'en couvrir le corps.
Oh là 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 là.
Et donc, s'auto-proclamer descendant du roi. Ça n'a pas pu se faire, mais bon, vous avez compris le topo.
Voilà, ça, tout ça, ça fait quand même un peu folklorique, et ça fait peur.
Voilà, ça peut prêter à sourire, évidemment, mais ça cache surtout une vraie dictature. Chiffre officiel de la Fédération internationale des droits de l'homme. 456 meurtres commis par le pouvoir l'an dernier. 84 disparitions forcées. 283 victimes de torture. Chiffre de l'ONU. 200 000 déplacés dans le pays. 400 000 réfugiés dans les pays voisins. Le Rwanda, la Tanzanie, la République démocratique du Congo. Alors là, certains vont peut-être me dire, oui, mais bon, c'est loin, c'est petit, on va pas en faire toute une histoire. Eh bien si. D'abord, parce que ça peut légitimer le retour de vieux clichés sur l'Afrique, alors que le continent, on le disait tout à l'heure, connaît une évolution démocratique réelle. On pense récemment au Zimbabwe, à l'Ouganda, au Burkina Faso, à la Gambie, à la Sierra Leone, on en avait parlé ici. Et surtout, attention, sonnette d'alarme. Nous parlons de cette région des Grands Lacs qui a connu le génocide des Tutsis, 800 000 morts au Rwanda voisin, la guerre civile dans ce même Burundi entre Hutus et Tutsis, environ 300 000 morts. Et ces derniers mois, les milices de jeunes Hutus liés au pouvoir sont réapparues. Et dans le texte du référendum figure aussi la remise en cause de l'équilibre des pouvoirs entre les deux ethnies. Cet équilibre qui, depuis les accords d'Arusha au début des années 2000, a en fait évité un nouveau bain de sang. Jusqu'à présent, la communauté internationale et l'Union européenne semblent regarder ce sujet d'un œil assez distrait. Il est grand temps de se réveiller.
Jean-Marc Fourreux et le monde à l'envers dans Un jour dans le monde sur France Inter. Le 18-20 continue avec le journal de Sébastien Paour et puis le téléphone sonne. Merci de rester avec nous. Bonne soirée, à tout de suite.